Comment être en harmonie en grande ville? Comment se nourrir et répandre des good vibes? Qui mieux qu'une New-Yorkaise qui a vécu dans le milieu international de la mode? Jessie Chase est cette New-Yorkaise qui se donne cet objectif de transmettre et partager ce savoir-vivre qu'elle apprend dans la capitale française, Paris.
Pour ce nouvel épisode de Savoir-Vivre, nous recevons Penny Drew-Perd, anciennement psychologue. Penny est maintenant le propriétaire de Dessin LLC et une designer d'intérieur qui est de réputation internationale. Célèbre pour son design d'intérieur, elle a été nommée sur la liste des 100 meilleurs architectes de designers du monde par l'Architectural Digest au cours de 20 dernières années. Elle a également été nommée sur la liste d'or du magazine Luxe, New Yorker by Blood, Parisian at Heart. Aujourd'hui, on a le plaisir d'échanger pour savoir vivre et vous faire découvrir l'univers de Penny Drew-Perd.
Bonjour Penny.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien, vous-même?
Très très bien. Très contente d'être ici à ton appartement absolument magnifique, ici à New York, au Upper East Side. Alors, tu es une architecte de l'intérieur. Pourquoi t'as pris ce chemin?
C'était par accident, en fait. J'ai commencé mes études d'être une psychologue et en fait, j'étais réussie de le faire. Et à la fin, j'ai changé par accident d'être une décoratrice.
Ok. Et pourquoi psychiatre? Pourquoi à la base, tu avais envie de faire ça?
Je ne sais pas exactement, mais quand j'étais petite, j'ai toujours voulu le faire.
Ok. Et tu avais quelle spécialisation?
C'était les enfants et la famille.
Ok. Et t'as arrêté, t'as fini tes études et après, t'as changé. T'as dit...
Pas exactement. J'étais en graduate school et en même temps, je fais des décorations pour des gens. Et quand j'ai fini mon programme...
Oui.
À la même temps, j'ai mon première chose en Architectural Digest américain. Et les deux choses, c'était exactement à la même temps. Et j'ai décidé de continuer d'être architecte de l'intérieur au lieu d'être psychologue.
Mais c'est assez grand chose d'être en Architectural Digest comme ça. Comment tu as eu ce poste? Tu as travaillé avec quelqu'un en particulier? Comment tu as eu tes contacts?
J'ai fait des décorations pendant toutes mes études et par hasard, j'ai envoyé un projet de Soho à Architectural Digest comme ça et il m'a appelé tout de suite et dit qu'il veut le mettre dans le magazine tout de suite.
Ah wow! Et le projet c'était pour une amie, c'était pour quelqu'un?
En fait, c'était pour l'homme qui... finalement, est devenu mon mari. Mais
ok.
À l'époque, non.
Et il te faisait confiance, il a dit, vas-y, je sais que tu es créative, vas-y, fais ma maison.
Ouais, un peu comme ça.
Et c'était pour toi, c'était une passion tout de suite de faire ce genre de boulot?
J'ai toujours aimé avoir des gens, de recevoir des gens chez moi. Et... faire la table, faire la cuisine, faire la décoration. Donc, c'était comme un hobby, quoi. Mm. Et à la fin, les gens veulent que je fasse pour eux-mêmes. Et j'ai fait des projets pour des gens différents et en même temps que je suis allée à l'école.
OK. Alors, est-ce que tu as jamais fait des études ou est-ce que tu as fait des études particulières pour être architecte de l'intérieur?
Après, quand j'ai décidé de le faire définitivement,
ouais.
C'était nécessaire de prendre tous les cours autour de livrer floor plan, livrer ouais. Dessin d'architecte. Mais pour les autres choses, non.
Ok. Et on sait aussi très bien que tu es un peu parisienne en même temps. À quel moment est-ce que cette fascination avec la France, avec Paris, est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Quand j'étais en collège, j'ai mon premier voyage en France et j'aimais bien, mais je n'étais pas complètement attrapée.
Ouais.
Mais à la fin de l'université, quand j'ai voyagé avec mon copain, j'ai devenu complètement en amour avec Paris et la France. Et j'ai décidé que je vais passer toutes mes vacances pour tous les étés de ma vie en France. Et je suis allée à l'Alliance française 2 fois par semaine et j'ai pris français. Et j'ai passé tout le reste de ma vie, presque tous mes étés en France.
Et alors, ta famille, ils avaient une fascination avec la France aussi, ou c'était juste un voyage qui t'a impressionné
Mes parents voyageaient beaucoup en Europe et en Asie, mais un peu ici, un peu là-bas. Donc, pas expressément la France.
Ok. Et il y avait quoi qui... C'était quoi la raison que tu as dit « il faut absolument que je passe mes vacances ici » Avec quoi, avec la France qui t'a inspiré et qui t'a attrapé?
Toutes les choses qui attrapent tout le monde.
Ouais.
L'architecture, la beauté partout, le pays eux-mêmes, le pays même.
Oui.
La cuisine. Le vin,
ouais.
L'art, le dessin, tous.
Alors, est-ce que tu penses que au fond, tu es plus américaine ou française? Tu es située où entre les deux cultures?
Je pense que c'est une vraie mixture.
Ouais.
Parce que je comprends la mentalité française.
Ouais.
Et naturellement, j'étais élevée avec la mentalité américaine.
Oui.
Donc, c'est une mélange.
Oui.
Mais j'apprécie le sens de la vie et la joie de vivre que les gens français pratiquaient. Je pense que c'est beaucoup mieux que le day-to-day life des Américains.
Oui. Et pour quelles raisons?
Parce qu'il y a une meilleure balance entre le travail et le plaisir de la vie.
Oui.
Ici, à New York surtout, c'est que à propos du travail.
Oui.
Il n'y a pas une autre vie.
Et parce que je sais, par exemple, moi, je me sens différent quand je suis en France. Est-ce que toi, tu sens différence quand tu es là-bas?
Absolument.
Tu trouves que tu es quelqu'un différent?
Oui. Je suis complètement différent. Je pense de choses avec une différente priorité. Et je sens mieux. Je sens bien dans ma peau.
Ouais. Et alors, tu voyages, tu es souvent à Paris, tu es souvent en France. Est-ce que c'était le cas depuis toujours? Tu as parlé déjà des vacances. Tu as passé combien de temps en France par an? Et c'était depuis quand?
Donc, vraiment, c'était depuis 25 ans. Mais ça change, ça dépend. Quand les enfants étaient petits, j'ai eu la chance de passer tout l'été en France avec eux. Et maintenant, un mois, chaque été. Et ça dépend des projets que j'ai.
Oui.
Si j'ai beaucoup de projets en France ou en Angleterre. J'ai plus d'excuses d'être là.
Et c'est vrai qu'à New York, il y a beaucoup plus de pression, je trouve au moins, en termes de travail, etc. Des gens sont plus stressés, je trouve. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois aussi en comparaison de la France, de tes clients? Est-ce que tes clients en France aussi sont différents que tes clients ici?
Absolument. Mais la première question, c'est difficile vraiment de... analyser parce que ici j'ai toute mon équipe et beaucoup de projets.
Ouais.
Et là-bas j'ai moins d'équipe et moins de projets. Donc le stress est moins.
Ouais.
Mais aussi, les clients sont très très différents parce que là-bas ils sont beaucoup moins hystériques à propos de chaque chose. Il regarde the big picture more.
Oui.
Et il a l'idée d'engager un professionnel et comme un médecin, quoi. Mm. Et il vous laisse faire votre travail. Et s'il y a un problème, il me laisse le corriger. Mm. Ici, les gens sont complètement hystériques et surtout à New York, parce que j'ai fait des projets dans tous les États-Unis et c'est pas le même en Portland, Oregon, que New York City. Mm. Mais les gens sont super high-strung et ils réactent comme chaque petite chose est la plus importante chose de le monde, de sa vie.
Oui. Alors, comment tu arrives à gérer ce genre d'hystérie?
On dit en anglais, je put out fires toute la journée. Mais ça dépend de la situation.
Mais comment tu arrives à rester à peu près zen? Parce que c'est quand même difficile d'avoir toujours des situations pas spécialement faciles. Comment tu fais?
Et c'est un travail avec beaucoup de petits détails et c'est complètement stressant. Donc, quelquefois, il semble que c'est beaucoup de glamour. Et on voyage, on achète des beaux choses, mais à la fin, c'est un travail qui est très, très dur. Donc, la question est comment je me repose?
Oui.
Pas vraiment. Pas vraiment quand je suis ici. Je voyage beaucoup, ça c'est une chose.
Oui.
J'aime bien faire du ski. Quand je skie, je pense de rien. Mais c'est le seul moment de ma vie que je pense de rien. Et j'aime bien être en France dans un café, regarder les gens, regarder le monde et boire un bon café, parce qu'il n'y a pas le bon café aux États-Unis. mais ici, c'est très difficile pour moi de relaxer. Vraiment, c'est très peu.
C'est effectivement une mentalité différente. Et pourquoi le ski pour toi? Qu'est-ce que ça donne pour toi?
Je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais du ski, vraiment, je pense de rien. J'ai l'air, la beauté, la neige, et je vois la beauté autour de moi. Il n'y a pas de gens qui parlent avec moi.
Oui.
Et c'est comme moi et la montagne.
Oui.
Et pour quelque raison, je pense de rien.
Peut-être
je pense de ne tomber pas.
En parlant des voyages et aussi de un peu le jet set life que tu vis, je sais que parfois ça peut être très bling bling, ça peut être il peut avoir beaucoup de drama. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu vois dans ta vie, dans les soirées, dans les choses comme ça?
Oui et non. Je vois beaucoup de choses, mais c'est pas ma vie. Nous avons toujours une vraie vie de famille qui, je pense que c'est plus à la française qu'à la new-yorkaise. C'est-à-dire, on a toujours le nourriture dans le frigo et on fait la cuisine tous les soirs, on dîne avec nos enfants et chaque dimanche, on fait la cuisine toute la journée et toute l'équipe dîne ensemble et nous avons beaucoup d'enfants. Et nous avons élevé nos enfants comme ça dans toute sa vie. Dans les étés, on ne fait pas le sleepaway camp et c'était toujours avec nous.
Wow.
En France. Et c'est une vie un peu différente que la plupart de les New Yorkais. Donc, oui, j'assiste des soirées et je fais des choses très fun de temps en temps. Mais la vie normale, c'est une vraie vie de famille chez nous.
Et est-ce que tu trouves que des gens qui sont dans le même monde que toi, ce monde un peu bling, est-ce qu'ils ont accepté que toi, tu faisais des choses différentes avec ta famille?
Vraiment, je pense que les gens pensent que de sun decorating. Ils ne pensent pas de ma vie personnelle.
Et est-ce que ça, c'est difficile parce que on peut dire que parfois, ces gens-là, c'est pas des rapports qui vont jusqu'au... C'est pas vraiment au fond. Est-ce que tu trouvais que c'était difficile de rencontrer des vraies personnes, des vrais amis ici à New York, comme ça?
C'est une question très intéressante. À la base, je pense que les gens sont peut-être les mêmes dans tout le monde. Donc, il y a les très bons gens, il y en a partout, et les très mauvais. Le très matérialiste, ça dépend, vraiment.
Est-ce que tu as grandi dans la même façon, dans le même style de vie que tu y vives maintenant?
Oui et non. Je suis élevée dans le banlieue. Ma mère a toujours travaillé. Elle a une boutique de la mode. Mon père, naturellement, il a travaillé aussi. Donc, j'étais élevée en part par ma grand-mère.
OK.
Qui a fait la cuisine tout le temps. Et comme ça, j'ai un peu de parents cosmopolitains, mais aussi une vraie partie de notre vie qui était vraiment famille. Donc, je pense qu'il y a une part de mon élevage.
De ta naissance, de ton enfance.
De mon enfance, qui était très famille aussi.
Et aussi, c'est assez particulier que tu aies une femme qui travaille dans ce milieu. Et c'est quelque chose qui est assez important pour toi. Pourquoi tu penses que c'est important pour une femme de toujours travailler?
En fait, c'est exactement ce que je pense. Je pense que ça, c'est une heure de parler à propos du féminisme.
Oui.
Féminisme et toutes les choses que je pense. Mais je suis allée à l'université dans la période très féministe.
OK.
Le début du féminisme. Et ces leçons, c'est vraiment important dans ma tête. Je pense qu'une femme qui se mariait sans faire des autres choses, et c'est simplement mon vue, qu'elle n'a pas assez dans sa vie. Elle doit keep up son côté.
Mm.
Je ne crois pas vraiment que l'homme doit supporter une famille et la femme doit faire la cuisine et élever les enfants. Ça ne semble pas correct à moi. Je pense que tout le monde doit contribuer et une femme qui devient une femme de foyer, à mon avis, vraiment perdre une partie d'elle-même et elle devient une adjoncte de son mari et au lieu d'être son propre personne. Donc, à mon avis, une femme doit travailler et ça peut être beaucoup de choses différentes. On peut gagner d'argent, mais à l'autre côté, on peut travailler sans gagner d'argent. Mais elle doit avoir un truc qui c'est absolument pour eux-mêmes, pour son vie quotidienne.
Est-ce que tu vois des femmes qui ne travaillent pas et tu vois qu'ils ont perdu une certaine partie d'eux?
C'est mon avis. Je n'ai pas analysé chaque femme que je connais que ne travaille
pas. Oui, mais bien sûr.
Mais comme tout le monde sait, il y a beaucoup de divorces.
Oui.
Il y a beaucoup d'hommes qui sont dissatisfaits. Naturellement, les femmes peuvent être aussi dissatisfaites. Mais à mon avis, l'homme peut continuer son travail et la femme est là sans faire rien, sans une idée ce qu'elle doit faire. Et évidemment, les enfants partent finalement.
C'est vrai. En plus, tu es toujours mariée et tu es mariée depuis
27 ans.
Comment tu trouves un équilibre dans ton relationship? C'est difficile de... J'imagine, c'est... Je n'ai pas l'expérience de dire que c'est difficile de 27 ans avec quelqu'un, mais j'imagine que c'est quelque chose.
À mon avis, tous les mariages sont difficiles, mais je pense que ils demandent tout le temps aux femmes « How do you have it all ?» Comment on peut « have it all ?» Mais en fait, on n'est jamais à tous. Une partie souffre contre une autre. Dans ma cas, j'ai beaucoup de chance parce que même que j'ai 6 garçons, 4 que j'ai fait et plus en plus deux de stepsons.
Oui.
Le secret de mon succès est que mes enfants sont absolument le plus facile enfant du monde.
C'est vrai? Même pour ton rapport avec ton mari?
Mes enfants sont vraiment faciles et si on séparait le trois parties de sa vie, le mariage, les enfants et le travail.
Oui.
Donc, s'il y en a une partie qui est absolument facile, c'est les deux autres.
Et pourquoi tu dis que tes enfants, c'était la partie la plus facile?
Parce que j'ai la chance.
Alors, tu as quatre garçons, pas des filles.
Pas des filles.
Et
les filles, peut-être, peuvent être pires.
Oui, peut-être. Alors, tes garçons, ils ont entre quels âges?
Entre 20 ans et 38.
OK. Alors, tu as déjà des fils qui vont se marier?
J'ai une qui va se marier fin du mois et le reste pas encore.
Et on sait aussi que tes fils, ils ont déjà pas mal de succès. Est-ce que tu penses que ton succès à toi avait d'influence sur eux?
Non, mais je pense que le fait que je suis une... ouvrier qui travaille très fort,
oui,
et très dur, il voit sa mère toute sa vie, travailler très très fort, donc il a le même work ethic de travailler beaucoup et être sérieuse dans ce côté.
C'est intéressant ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence aussi, vraiment juste par l'expérience. Mais en même temps, est-ce que tu es arrivé à d'être souvent présent? Parce qu'on sait que tu travailles beaucoup. Comment tu es arrivé à faire ça avec toute la pression, toute la stress, les projets que tu as tout le temps?
J'ai un métier qui est vraiment flexible. Même que c'est dur et même qu'on peut mettre beaucoup d'heures. Dans une petite minute, c'est à moi de choisir ce que je veux faire. Donc, si mon kid est dans une discours à l'école, je peux y aller.
Oui.
Et je peux faire le rendez-vous après.
Oui.
C'est pas comme un avocat, peut-être. Donc, j'ai la flexibilité qui m'a aidé beaucoup de faire ce que j'ai voulu faire quand j'ai voulu le faire.
Est-ce qu'il y avait des fois où tu avais des clients qui t'ont demandé des choses complètement fous et tu es arrivée à la maison, tu étais en colère? Comment tu as géré tout ça entre familles?
Ça dépend. Chaque cas est différent, vraiment. Mais quelquefois, il y a les gens qui sont vraiment pas raisonnables. Mais je fais ma mieux de se calmer et gérer et réparer le problème.
Est-ce que tu as une pratique spirituelle? Est-ce que tu médites? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour quand tu es dans une situation où tu dis « c'est pas possible, je sais pas quoi faire »
Non, en fait, je n'ai pas et j'ai besoin.
Tu sais, il y a un mindful, un centre de méditation qui est juste à côté d'ici. C'est génial.
J'ai une mindful sur mon iPhone.
Ah!
Mais le problème, une de les façons que je gère mon temps, oui, c'est que je suis toujours pressée.
Oui.
Donc, si je veux avoir le temps de rester avec mes enfants pour quelque raison, je dois récupérer ce temps dans une autre façon.
Oui.
Donc, pour le reste, je suis rushing. À la fin, je pense vraiment très peu de moi-même, de faire le temps pour faire quelque chose pour moi-même. De temps en temps, un message, mais pas souvent.
Oui, qui est normal et qui, c'est toujours difficile, je pense, pour tout le monde de trouver le temps de prendre soin d'eux. Mais est-ce que tu penses que peut-être ton expérience et tes études en psychiatre, en psychologue, tout ça, est-ce que tu penses que ça a une influence sur ton bien-être, sur ta santé mentale?
Je ne sais pas. Mais seulement, il m'a aidé dans mes relations avec les clientes et des choses en business.
Dans quel sens?
Je trouve que la décoration, ce n'est pas une chose très scientifique. Ce n'est pas cut and dried. C'est difficile de travailler avec les gens quand ils sont assez émotionnels.
Ouais, émotif.
Émotif. Et je pense que mon training m'a aidé de interact.
D'échanger.
De changer avec.
Échanger avec des gens.
Avec des gens. Échanger avec des gens.
D'échanger avec des gens, par exemple des gens qui sont différents, des gens qui voient des choses différemment. Dans quel sens?
Pas comme ça. C'est par exemple. Le mari veut dépenser X, mais la femme veut toutes les choses dans le monde.
D'accord.
On doit gérer cette situation, par exemple.
Ok, ok. C'est assez intéressant. Alors, en parlant de toute ta vie, tes expériences, ta famille, quel est le vrai savoir-vivre de Penny? C'est quoi le mantra? Quelle est ton philosophie de la vie?
Je ne sais pas si j'ai une vraie philosophie comme ça. Je pense que la vie est dure pour tout le monde. Naturellement, il y a une différence dans la fourchette.
Oui.
Mais on doit essayer de faire ma mieux, d'élever mes enfants, de faire des gens très bien dans le monde. Et en même temps, avoir le plaisir de vivre parce que la vie est courte. Et avec toutes ces idées, faire ma mieux. Et c'est tout vraiment.
Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Il faut profiter de la vie et de se faire plaisir. Alors, on va finir avec quelques rapid-fire questions pour te connaître un peu mieux. Alors, quel est ton quartier à New York?
Mon quartier, c'est le Upper East Side. Mais dans ma cœur, mon quartier est le Village.
Et pourquoi?
J'aime l'esprit dans le village. L'Upper East Side est un peu boring.
Quel est l'esprit de l'West Village pour toi?
C'est un peu comme la France, le petit endroit, le beau bâtiment, peut-être de mieux café, je ne sais pas.
Et à Paris, quel est ton quartier?
7e, côté Saint-Germain. Mais il y a des autres que j'aime. J'aime le 9e, j'aime le 11e, il y a beaucoup.
Quel est ton restaurant préféré à New York?
Fort Charles.
Fort Charles, je ne connais pas.
C'est dans le village.
Ok.
Sur Charles Street.
Ah, Fort Charles, ok. Très bien, et c'est quel genre de cuisine?
C'est un steak restaurant, comme un pub un peu.
Ok, très bien. Et à Paris du coup, quel est ton restaurant préféré? Parce qu'on sait que tu aimes beaucoup cuisiner, tu aimes beaucoup la nourriture.
C'est la Milouie. C'est cliché, mais c'est la Milouie.
C'est cliché, c'est bien aussi. Si on voulait te retrouver à New York, on va te retrouver où?
Dans mon bureau ou dans ma maison. À mon avis, le meilleur endroit dans tout New York est ma maison.
C'est vrai que ta maison est magnifique.
Dans ma maison tout le temps.
Et tu sens bien ici. C'est où tu te reposes, où tu sens sane, zen, tout ça.
Mais c'est une vraie maison.
C'est vrai.
Ça change l'expérience. Parce que je suis vraiment dans. Je ne sens pas l'odeur de quelqu'un d'autre faire la cuisine. Oui. Je ne sens pas le bruit. J'ai personne au-dessus de moi. Donc, je suis très zen ici. Oui.
Tu es ici depuis.
Si je peux être zen.
Tu es ici depuis longtemps?
Oui, 20 ans.
Et ça a pris longtemps de trouver Non, un endroit comme
fait,
ça ici.
On fait un habité en Soho dans une duplex loft énorme, énorme.
Où à Soho?
Plus grand que ici.
Wow.
À Mulberry Street. Et
ah, sympa.
Dans toute ma vie, quand j'ai acheté une maison, c'était toujours dans une jour. Donc okay. J'ai regardé toutes les maisons que je peux voir dans dans cette case de 3 jours et j'ai choisi.
Je suis comme ça aussi.
Et voilà, c'est fou.
Quand je veux quelque chose, ouais. Direct...
C'est le même à Paris.
C'est le même à Paris. Ouais. Alors, à Paris, c'est le même pour ton appartement actuel au 7e? Ok, d'accord.
L'appartement que tu connais.
Très bien. Parce que t'étais toujours au 7e à Paris?
Oui, mais c'est pas dans cette rue-là, mais mon autre appartement était 7e côté Saint-Germain aussi.
Ok. Quel est ton plat préféré?
En France?
On peut faire les deux en France.
À New York, c'est toujours un cheeseburger.
OK.
C'est sûr.
Où?
Presque n'importe où.
OK, presque n'importe où. Et à Paris?
Mais là, le très, très bon Fred's at Barney's est très, très bien.
Ah, j'adore Fred's.
C'est super. Un cheeseburger.
Et à Paris? Oh, en France en général?
En France, il y a trop de choses. J'adore le pomme de terre à chez le Miloué. J'adore. J'aime bien... le terrine de volaille, le coquelicot. Mm. I mean, il y a trop de choses. Je peux parler de mes préférences en cuisine en France toute la journée.
Mais c'est clair, il y a tellement des choses. Il y a tellement des choses. On sait que tu fréquentes beaucoup les puces pour acheter des choses pour les clients. Quelle est la chose la plus folle que tu as trouvée là-bas?
Folle, c'est pas sûr. Mais je trouve des choses qui semblent bizarres, mais quand on est incorporé dans une pièce,
oui.
il peut vraiment faire une pièce plus intéressante. Et quelquefois, je fais une pièce entière autour d'une pièce que je trouve en France, dans la pousse.
Très bien. Quel était ton projet dans tes yeux, le plus réussite de ta carrière?
Il y a beaucoup, mais une que j'adore, c'était le loft que j'ai fait,
oui,
pour mon mari quand il m'a engagée au début.
Et c'était où?
À Mulberry.
Ah, c'était à Mulberry.
C'était ma première chose en Architectural Digest.
Très bien.
C'était cet appartement-là.
Et pour finir, c'était juste, quelle est ton clé pour avoir du succès? Dans la vie en général, dans la vie, ça peut être du travail, ça peut être socialement, ça peut être en famille, mais la chose, ton clé pour toi?
Il y a que deux choses, la chance et la persévérance.
Très bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à ton townhouse absolument incroyable. Merci, Penny.
Merci.